Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. C'est au cœur d'une ville internationale que je vous invite aujourd'hui à la découverte d'un musée, pas comme les autres. La ville, c'est Genève, au bord du lac Léman, en Suisse. Et le musée, c'est le musée international de la Réforme. Pour nous le présenter, nous guider, nous faire comprendre l'esprit qui anime ce musée, j'ai le plaisir de recevoir une Française, Isabelle Gresley, qui en est la directrice. Isabelle Gresley, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venue jusqu'au studio de Canal Académie, de Genève en passant par Bruxelles. Isabelle Gresley a déjà une vie très européenne. Vous êtes docteur en théologie et après avoir été 20 ans pasteur à Genève, vous étiez la première femme à succéder à Calvin, qui lui-même était le premier modérateur de la Compagnie des pasteurs. Et bien maintenant, vous êtes directrice de ce musée international de la Réforme. Il a été créé quand ?
Alors, il a été inauguré en avril 2005, même si cela faisait à peu près une centaine d'années que des historiens et des théologiens genevois avaient eu l'idée de ce musée.
Alors, vous avez concrétisé un rêve vieux de 100 ans.
Exactement. Pour être très exact, il y avait déjà eu une première tentative dans les années 1920. C'est anecdotique, mais pas seulement, puisque déjà à l'époque, des historiens avaient rassemblé des tableaux, des lettres de Calvin, quelques ouvrages, et les avaient exposés dans une salle qui s'appelait la salle de la Réformation. La petite anecdote, c'est que la salle a été réquisitionnée, rappelez-vous, on est dans les années 1920, par la jeune Société des Nations qui en avait besoin de cette salle pour son centrale téléphonique. Donc voilà un peu la modernité qui concurrence l'histoire. Et il a fallu attendre de nouvelles forces, de nouvelles énergies, de nouveaux capitaux aussi, pour que à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, eh bien, ce musée s'ouvre.
Donc l'histoire de la Réforme n'avait pas son musée jusqu'à présent. Il n'y avait pas d'autres musées ou alors des petits musées locaux ?
Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier d'abord en Allemagne, pour toute la Réforme luthérienne, il y a un grand musée Luther, oui, à Wittenberg, quelques autres musées en Allemagne aussi. Et puis, en France, il y a beaucoup de lieux de mémoire pour évoquer une mémoire souvent difficile, obscurcie par les siècles douloureux, notamment le musée du désert dans le sud de la France.
Dans les Cévennes,
voilà,
oui.
Et qui, encore une fois, retrace une période essentielle. Mais je crois que manquer à la fois quelque chose à Genève, puisque Genève a été et encore considérée un peu, entre guillemets, comme la Rome protestante, et avec la figure de Jean Calvin, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un fait, il a existé, il a été l'un des fondateurs, l'un des deux grands fondateurs de la Réforme protestante. Et donc, il fallait un lieu pour marquer quelque chose d'une trajectoire assez complète.
Isabelle Gresley, ce musée international de la Réforme, donc, vient d'être distingué par le Conseil de l'Europe. Quand nous avons vu ça dans la presse, nous nous sommes réjouis pour vous. Quelle est cette distinction ?
Alors, merci. C'est vrai que nous sommes à la fois très fiers, vraiment ravis de cette distinction, puisque chaque année, depuis 30 ans maintenant, le Conseil de l'Europe, via sa commission de la culture et de l'éducation, décerne le prix du musée de l'année. Nous avons obtenu ce prix du musée 2007 du Conseil de l'Europe, en association avec un organisme européen, le European Museum Forum, qui envoie, comme l'a dit de façon un petit peu comique un journaliste genevois, c'est un petit peu comme un guide Goemio, on envoie des jurés à travers l'Europe, puisque c'est la grande Europe, hein. Le Conseil de l'Europe, c'est 49 pays, et c'est très vaste, ça va pratiquement jusqu'à l'Oural, et en tous les cas à la Russie, et des jurés venus d'un peu partout se partagent les nouveaux musées, puisque c'est un prix qui s'adresse soit aux nouveaux musées, soit aux musées qui ont été complètement refaits, et nous avons eu, ça fait à peu près une année, la visite d'un juré hollandais et d'un juré russe qui allaient, eux, visiter la Suisse, puisque nous étions trois musées en Suisse à concourir, et qui, pendant toute une journée, ont visité notre musée, ont posé beaucoup de questions à nos muséographes, c'est-à-dire les architectes qui ont conçu avec nos historiens ce musée, qui m'ont posé aussi beaucoup de questions sur la ligne politique que j'entendais donner à ce musée. Ça a été vraiment très, très intéressant. J'avoue que j'ai quand même été très surprise, parce parce que j'attendais de voir comment les choses allaient se passer, lorsque j'ai reçu un coup de téléphone m'annonçant effectivement la bonne nouvelle.
Alors, vous avez reçu quoi comme récompense ?
Alors, c'est d'abord une récompense honorifique, dans le sens où, avec toute une délégation du conseil de fondation du musée, nous sommes allés à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, recevoir des mains du président de l'Assemblée parlementaire, un magnifique diplôme, et aussi entendre des discours à la fois très chaleureux, montrant aussi ce qui avait touché les jurés, c'est-à-dire la façon très ouverte que nous avons de présenter cette trajectoire historique, la façon en même temps, à la fois, c'est assez surprenant, parce que vous savez, on imagine la réforme protestante, surtout calvinienne, comme quelque chose d'assez austère, et au fond, bien sûr qu'il y a quelque chose de cette caractéristique, mais nous dépassons le cliché, nous moquons de nous-mêmes, et ce qui frappe, c'est que les visiteurs ressortent très, très heureux de ce musée, parce qu'ils ont beaucoup ri dans notre musée.
Bon, c'est surprenant, en effet. Alors, Isabelle Gressley, vous évoquiez le conseil de ce musée. Comment est-il constitué ? Qui est à sa tête ? Vous êtes directrice. Qu'y a-t-il d'autre à vos côtés ?
Alors, la décision du conseil de la fondation du musée a été d'en faire un musée privé. D'une certaine façon, pour respecter ce qui se passe aussi dans le canton de Genève, qui est identique à ce qui se passe en France. Ça s'est passé en 1907. La séparation très stricte de l'Église et de l'État, pour une espèce de liberté aussi dans l'interprétation qui est donnée de cette trajectoire historique. Bref, notre musée est un musée strictement privé qui ne dépend donc d'aucune manne publique, d'aucun argent public qui soit de la Confédération helvétique ou de la ville ou du canton de Genève. Et donc, je suis à la tête d'une toute petite équipe avec 3-4 personnes, mais en même temps très soutenue et secondée par un conseil de fondation très, très actif dans beaucoup de domaines et par une nuée de bénévoles.
Vous avez évoqué aussi l'architecture de ce musée, Isabelle Gressley. Est-ce un musée qui est sorti de terre ou est-ce que c'est une reprise d'un ancien bâtiment ?
Alors, le musée international de la Réforme se situe au rez-de-chaussée et au sous-sol d'une maison patricienne de la vieille ville de Genève qui s'appelle la maison Mallet. La famille Mallet était une famille de réfugiés huguenots venant du premier refuge, c'est-à-dire des guerres de religion du XVIe siècle, et avait prospéré dans la banque, et c'est au XVIIIe siècle que Gédéon Mallet a racheté la superficie du cloître qui, à l'époque, était en ruine et qui jouxtait la cathédrale Saint-Pierre, qui donc était protestante depuis le XVIe siècle. Et il a fait raser ces ruines et, grâce à l'architecte parisien Jean-François Blondel, a fait ériger une très belle maison qui reste là encore dans le domaine du raisonnable. Il ne fallait pas montrer la richesse que l'on possédait. Il n'en demeure pas moins que c'est une magnifique maison qui est occupée, dont le propriétaire est depuis les années 1950, l'église protestante de Genève. Donc nous louons une partie de cette maison et quand même, il y a quelque chose de symbolique dans ce lieu, puisque, je le précisais, au XVIe siècle, avant cette maison, se trouvait le cloître. Et c'est dans ce cloître que la réforme a été adoptée le 21 mai 1536.
Voilà une date historique. Alors, néanmoins, la muséographie, alors que vous proposez, je suppose, elle est toute moderne.
Tout à fait. Sans avoir voulu tomber dans le gadget et le tout électronique ou le tout ordinateur. Chez nous, on a plus de manivelles à tourner pour que des automates se mettent en route que de boutons à pousser pour que des écrans vous animent des choses. Mais il y a certains musts. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer, par exemple, dans le grand salon qui est traversant, donc qui donne une magnifique vue à la fois sur la cour intérieure et sur la cour de Saint-Pierre, des petites tables avec des fauteuils translucides et un audiovisuel que l'on peut voir toutes les heures pendant un quart d'heure qui donne une espèce de peinture historique de tous ces siècles de la Réforme. Et le must de ce spectacle, c'est qu'à un moment donné, les écrans s'éteignent et dans les miroirs qui sont au-dessus des deux cheminées de ce grand salon apparaissent les portraits de Luther puis de Calvin qui vous parlent et qui vous racontent la réforme de leur point de vue.
Ah, voilà, une animation tout à fait séduisante. Il y a d'autres activités dans le musée régulièrement proposées au public, des colloques, des conférences.
Voilà, alors c'est vrai que je tiens beaucoup à ce que ce musée ne soit pas seulement un lieu à visiter, même si, encore une fois, il est passionnant. Je n'ai pas parlé de la salle à manger, puisque vous avez compris qu'il y a ça, un petit peu l'architecture d'une maison, avec le banquet théologique où Calvin invite tous ses successeurs jusqu'à Jean-Jacques Rousseau. Il compris, pour parler de la prédestination. Donc c'est hautement théologique et assez amusant. Mais c'est vrai que je tiens aussi à ce que ce musée, par ses activités annexes, conférences, débats, spectacles aussi, puisse être à la fois un lieu de dialogue, un lieu où l'on peut discourir et entendre des spécialistes des grandes questions du religieux qui agitent la scène intellectuelle aujourd'hui, et pas seulement intellectuelle. Je crois que nos contemporains sont un petit peu désarçonnés devant la recomposition du religieux, qu'il soit au niveau mondial ou au niveau local. Et nous avons besoin de lieux de parole, repères, de repères.
Oui.
Et ça, c'est très important que le musée, notre musée, joue ce rôle. Et il lui est d'ailleurs tout à fait reconnu. D'autres directeurs de musées, je pense par exemple au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui me disaient au moment de l'inauguration, maintenant vous êtes là et on va pouvoir à vous vous confier cette charge-là. Mais le musée attire aussi au moment de ces fêtes, nous venons de fêter le deuxième anniversaire, et se crée non pas une petite communauté, ce serait trop exagéré, mais des amis du musée qui passent, qui nous donnent un coup de main et qui sont là et qui accompagnent la route de ce lieu vraiment unique.
Quel public vient voir le musée? Alors évidemment, on se dit il n'y aura que des protestants, mais non, sans doute pas. Il y a bien sûr toutes sortes de gens.
Oui, alors il y a effectivement tout un public protestant qui réagit de façon très, très différente selon le lieu d'où il vient. Vous avez des protestants venus de Corée ou des États-Unis qui viennent ici presque, dans ce lieu à Genève, qui viennent presque en pèlerinage pour qui revenir sur les traces de leur origine est essentiel. Il y a beaucoup de Genevois qui viennent, qui soit sont d'origine protestante mais ont perdu un lien institutionnel et spirituel avec cette tradition, mais qui connaissent le poids qu'elle a pu avoir dans le passé et qui ont envie d'en savoir plus. Je dirais que c'est un public très mélangé. Selon les saisons, c'est un petit peu 2/3 de Suisses et 1/3 d'étrangers. Et beaucoup d'Américains, ça je dois le reconnaître. Et dans la perspective, par exemple, du jubilé calvinien, puisque très bientôt, en 2009, nous allons fêter les 500 ans de Jean Calvin, eh bien, je sais qu'il y a vraiment un nombre incroyable d'Américains, de pasteurs, de paroissiens, de gens tout simplement intéressés, encore une fois, à revenir sur les traces de leur origine, qui vont débarquer à Genève et chez nous en particulier.
Alors, vous avez donc de grands projets pour ce musée. Quel est le projet le plus immédiat que vous auriez envie de réaliser?
Alors, outre la restauration de certaines salles déjà existantes, outre l'ouverture d'une nouvelle salle pour expliquer le protestantisme d'aujourd'hui ou les protestantismes d'aujourd'hui, très bigarrés, très colorés, très différents de ceux que nous connaissons en Europe occidentale, un des projets qui me tient à cœur, c'est de constituer une équipe de quelques pédagogues, de quelques personnes spécialisées dans l'approche pédagogique des musées. Car je crois que notre musée pourrait aussi servir grandement à des professeurs d'histoire ou à des gens, voire des individuels, des familles qui ont envie d'apporter quelque chose de supplémentaire à leurs enfants. Je crois aussi qu'un musée peut s'adresser même à des tout petits enfants, à condition d'offrir, que ce soit pour des visites individuelles ou en groupe, un support pédagogique bien pensé, bien conçu. Et encore une fois, ça nécessite toute une petite équipe qui va se mettre au travail. C'est quelque chose, un des projets dont je me réjouis énormément.
Isabelle Gressley, pour terminer sur une note qui va nous faire rêver un peu, quels sont les trésors de ce musée?
Oh, là, c'est une question épouvantable parce qu'il y en a beaucoup. Je vais peut-être juste parcourir le musée, vous dire que dans la première salle, c'est un parcours complètement subjectif. Ce qui, pour moi, est très émouvant et significatif aussi des débuts du protestantisme, la première salle qui est dévolue à la Bible, nous avons une Bible de 1565, Bible de travail, alors pas une Bible en français courant comme les réformateurs ont tenté d'en traduire, mais ce qui est très émouvant, c'est que c'est une Bible qui est annotée pratiquement à chaque page par Théodore de Bèze, le successeur de Jean
Calvin.
Voilà
une grande figure qu'il fallait tout de même évoquer.
Voilà, c'est ça. Et puisque nous sommes à Paris, nous avons aussi un des traits dans la salle d'un de nos mécènes, Jean-Paul Barbie-Muller. Nous avons un des rares exemplaires restant au monde des placards de Marcourt, du pasteur Marcourt, qui en 1534 avait placardé un libelle, un pamphlet épouvantable contre la messe papiste, comme il appelait ça, qui a d'ailleurs déclenché les premières répression anti-protestante par François Ier et son gouvernement. Et puis, dans la salle de la Genève de Calvin, la tasse de Calvin. Nous n'avons pas beaucoup de reliques dans le protestantisme, mais celle-là...
Non, ce n'est pas tellement protestant.
Non, mais celle-là, j'y tiens beaucoup.
Plutôt un souvenir, alors.
Voilà, c'est un souvenir pour montrer un Calvin plus humain que celui que l'on imagine d'habitude. Et puis, dans la salle du 18e, je passe très rapidement ce que les tout petits enfants, d'ailleurs, aiment beaucoup dans notre musée, encore une manivelle à tourner, et la cheminée s'ouvre pratiquement, ah. Et on voit apparaître une Bible mangée par les tisons, parce qu'elle appartenait à ces familles qui avaient été forcées, après 1685 et la révocation de l'édit de Nantes, de se convertir au catholicisme, mais qui gardaient quand même en cachette, bien sûr, chez eux, la Bible. Voilà. Quelques exemples parmi de nombreux autres, bien sûr.
Des trésors. Merci Isabelle Gresslet de nous avoir éclairé sur ce musée international de la Réforme. Vous trouverez toutes les indications sur notre site internet pour vous y rendre. Et j'espère pour y passer un très instructif moment. Instructif à la fois sur le plan historique, peut-être aussi sur le plan spirituel, je suppose. Vous y tenez en tout cas ?
J'y tiens, même si effectivement nous restons un musée et un lieu de mémoire. Mais j'ai souvent... Je ne sais pas si c'est de la spiritualité, mais en tous les cas, je suis frappée par l'émotion qui est suscitée par beaucoup de ce que nous présentons et parfois dans les yeux des visiteurs, quelques petites frisottis qui montrent que les gens sont touchés, pas seulement dans une évocation historique, mais aussi dans l'évocation en tous les cas de cette famille spirituelle, d'une des grandes familles spirituelles du christianisme.
Absolument. Merci Isabelle Gresslet.
Merci à vous. Thank you.